Salut et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du livre Power of Habits, un livre écrit par Charles Duhigg, qui est vraiment une référence dans le domaine en matière de développement personnel et de création d'habitudes. On va voir comment faire pour changer une habitude, pour la remplacer, comment faire pour créer de nouvelles habitudes. Et puis d'abord, on va voir comment fonctionnent les habitudes vraiment dans notre cerveau. Une chose intéressante sur le livre, une des premières leçons qu'on apprend et qui illustre un concept clé en matière de création d'habitudes, c'est l'histoire suivante. C'est l'histoire d'une femme qui, à un moment donné de sa vie, avait que des mauvaises habitudes. Elle fumait beaucoup, elle buvait beaucoup, elle mangeait n'importe quoi, elle faisait pas de sport, elle regardait la télévision, et elle avait de mauvaises relations avec ses proches. Puis un jour, elle a divorcé, et quelques années plus tard, eh bien, elle avait changé du tout au tout, elle avait uniquement des bonnes habitudes, et tout allait très bien dans sa vie. Elle faisait du sport, elle mangeait bien, et puis elle avait des activités, elle lisait, bref, tout a changé en quelques années. Et plusieurs personnes se sont demandé, se sont intéressées à son cas et ont essayé de savoir pourquoi est-ce que les choses avaient changé de manière aussi folle et aussi imprévisible. Eh bien, la raison, c'était, comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation, la raison, c'est qu'elle avait commencé par essayer de changer une seule habitude. C'est un concept clé quand on veut vraiment changer toutes ses bonnes habitudes, parce qu'on a tous envie de créer pas seulement une seule bonne habitude, mais on veut souvent changer de manière globale. Un concept clé, c'est de se concentrer sur une seule et unique habitude. On appelle ça les keystone habits, les habitudes clés de voûte, c'est-à-dire des habitudes sur lesquelles vont s'appuyer les autres bonnes habitudes. Et c'est sur ça qu'il faut se concentrer, sur ces petits conseils simples. Un exemple d'une étude qui illustre vraiment ça, c'est une étude qui a été faite sur des personnes obèses où on les a divisées en deux groupes différents. Le premier groupe de personnes obèses, on leur a dit, vous allez faire plus de sport, vous allez essayer de mieux manger, tenir ce régime alimentaire particulier, puis vous allez prendre l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur, etc., etc. Et on a vu les résultats quelques mois plus tard. Le deuxième groupe de personnes obèses, on leur a dit une seule et unique chose. Vous allez tenir un journal de tout ce que vous mangez. Vous allez tenir un food journal dans lequel vous allez écrire tous les aliments que vous prenez tous les jours. Et c'est tout. Eh bien, des deux groupes, celui qui a beaucoup plus maigri, qui a beaucoup plus créé de bonnes habitudes liées à l'alimentation, la santé et le sport, eh bien, c'est le deuxième groupe. Pourquoi? Parce que le deuxième groupe s'est concentré uniquement sur l'habitude clé de voûte, sur une petite habitude, et le deuxième groupe a pu avoir beaucoup de petites victoires. Et ces petites victoires, cette capacité à tenir un journal de ses aliments, a permis eh bien, de se motiver et de créer de nouvelles bonnes habitudes et d'avoir d'autres petites victoires. Ça, c'est un concept clé qu'il faut bien retenir quand on veut s'intéresser à la création d'habitudes, c'est de commencer petit, de commencer de manière focus en se concentrant sur une seule et unique chose et trouver sa propre habitude clé. Son habitude clé de voûte, pour certains, ça va être de méditer 5 minutes tous les jours, pour d'autres, ça va être de lire une page par jour, pour certains, ça va être de bien manger. Voilà, il y a plein de choses différentes. Ça, vous trouvez avec vos expériences l'habitude clé qui va changer globalement toutes vos habitudes. Ensuite, pour bien comprendre les habitudes, pour bien les approcher, les changer, essayer de les effacer, même si c'est pas totalement possible comme on va le voir, il faut voir en quoi se décomposent les habitudes. Et en fait, les habitudes sont constituées de trois étapes différentes. La première, c'est le déclencheur. La deuxième, c'est la routine, donc l'habitude en elle-même, les actions. Et la troisième, c'est la récompense. Alors, on va prendre un exemple d'un produit qu'on utilise tous les jours, qui est une habitude vraiment globalisée, qui s'est répandue assez rapidement et qui est très récente, et qui s'est diffusée bah, en fait, grâce à la publicité et grâce au marketing fait par les entreprises. Cette habitude qu'on fait tous les jours et qui s'est développée récemment, grâce aux techniques et à la compréhension du fonctionnement neurologique de l'habitude, cette habitude qu'on a tous les jours, c'est se brosser les dents. Se brosser les dents, ça nous paraît tous naturel, mais effectivement, c'est pas quelque chose qui se faisait tellement les siècles précédents. Et pour que les gens prennent l'habitude de se brosser les dents tous les jours, il a fallu associer à cette routine, à cette action, il a fallu associer d'abord un déclencheur et ensuite une récompense. Et ça s'est fait précisément à un moment donné de l'histoire. En fait, avant, les gens ne sentaient pas, enfin, ne souffraient pas d'avoir le sentiment d'avoir les dents particulièrement sales. Si vous passez votre langue sur vos dents, vous allez sentir, si vous n'êtes pas encore brossé les dents aujourd'hui, vous allez sentir un petit film, un léger film. Bien, ce film, aujourd'hui, il nous est désagréable, mais il ne l'a pas toujours été. Et puis, les gens, surtout, n'ont pas toujours réalisé qu'ils avaient un petit film sur les dents. Pourquoi est-ce qu'on a commencé à le réaliser dans le monde occidental d'abord? Parce que des publicités, des gens qui voulaient vendre des brosses à dents, ont cherché des arguments pour le faire, et puis ils ont trouvé cet argument, ce déclencheur-là pour produire une habitude. Du coup, des publicités qui étaient affichées voilà, dans les panneaux publicitaires disaient la chose suivante, disaient la phrase suivante. Passez votre langue sur vos dents et puis sentez le petit film qui, la petite pellicule qui est sur vos dents. Eh bien, vous pouvez retirer ça. Ça, c'est de la saleté. Et vous pouvez le retirer en vous brossant les dents tous les jours. Et comme ce petit film, cette pellicule revient tous les jours sur la surface de nos dents, eh bien, on est amené tous les jours à repenser, à redéclencher cette habitude de se brosser les dents tous les jours. Ce film, ce déclencheur a été produit artificiellement. Ensuite, ça suffit évidemment pas. Il y a d'abord le déclencheur, ensuite la routine et enfin la récompense. Et qu'est-ce que c'est que la récompense dans le cas du brossage de dents? Mais pour que la récompense soit vraiment récurrente, qu'elle arrive à chaque fois qu'on réalise la routine, eh bien, il faut que cette récompense soit ajoutée au produit. Eh bien, ce que les entreprises ont fait, c'est qu'elles ont ajouté une petite sensation acidulée dans les dentifrices et une petite sensation citronnée qu'on connaît tous juste après s'être brossé les dents qui reste un petit peu dans la bouche. Ça, c'est pas forcément agréable à la base, c'est pas forcément quelque chose qu'on recherche naturellement. Mais en créant cette sensation-là, qui d'ailleurs est inutile hein, d'un point de vue de santé, qui ne nous fait pas forcément sentir mieux aussi, eh bien, cette sensation-là, elle a été ajoutée précisément pour créer l'habitude et pour nous rendre addicts au fait de se brosser les dents. Et c'est la même chose dans plein de produits différents. Hein. Vous pouvez penser à la mousse sur les produits pour se laver les cheveux, les shampoings. C'est pas vraiment utile d'un point de vue de la santé de nos cheveux, mais c'est utile pour qu'on garde l'habitude, qu'on ait une petite sensation désagréable si jamais on va prendre un dentifrice sans cette sensation acidulée, ou si on va prendre un shampoing sans cette sensation de mousse particulière. Les habitudes, en fait, se créent comme ça, simplement en créant ce cycle. Déclencheur, routine, récompense. Et ce qui marche très bien et qu'on peut essayer de faire, et ce qui fait que les habitudes nous définissent autant en tant qu'individus, c'est que les déclencheurs, petit à petit avec le temps, vont se rassembler, se compresser, se confondre avec les récompenses. Petit à petit, en fait, dès qu'on va avoir un déclencheur, même si c'est quelque chose de désagréable, on va l'associer à une sensation agréable. Alors, c'est évident, par exemple, dans la nourriture. Quand on va voir qu'il est midi, on va peut-être se sentir content et heureux parce qu'on est sur le point de manger. Ou alors quand on voit un aliment, ou alors quand on rentre dans un restaurant particulier, dans un café particulier, on sait qu'on va prendre quelque chose de bon. On va associer un déclencheur à une récompense avant même d'avoir réalisé l'habitude, avant même d'avoir touché la récompense. C'est évident aussi dans le sport. Le sport en soi, la routine du sport, de faire des efforts, de soulever des poids, de faire quelque chose, de courir, en soi c'est désagréable. Mais avec le temps, quand on fait ça tous les jours, le déclencheur ça pourrait être par exemple de mettre ses chaussures le matin. La routine, c'est d'aller courir. Et après, il y a la récompense, qui est la sensation, qui est l'oxytocine qui est libérée dans le cerveau. Bah, cette sensation agréable, petit à petit, elle se confond avec le déclencheur et avec la routine. Et petit à petit, mettre ses chaussures le matin pour aller faire du sport et courir, ça devient la même chose que la récompense, que le sentiment agréable qu'on a après. Et c'est pas juste une métaphore, c'est pas juste un concept psychologique. C'est ce qui se passe vraiment dans notre cerveau. Dans notre cerveau, la réaction devient confondue et c'est la même chose. C'est ça la force des habitudes. On l'a observé chez des souris qu'on a soumis à des tests en les mettant dans des labyrinthes et en leur permettant d'accéder à de la nourriture. Eh bien, quand elles avaient accès à certains déclencheurs, elles accédaient à la nourriture et petit à petit, la réaction qu'elles avaient cérébralement, et on le voyait avec des électrodes placées sur leur tête, leur réaction cérébrale, petit à petit, d'abord celle du déclencheur et ensuite celle de la récompense, eh bien, elles étaient de moins en moins éloignées dans le temps jusqu'à ce qu'elles forment une seule et même réaction. Donc c'est un phénomène réel qui est central dans la création d'habitudes. Quelque chose aussi qui a été testé sur ces souris en laboratoire en ce qui concerne les habitudes, c'est que les habitudes, elles servent en particulier à faire moins d'efforts, à moins utiliser notre néocortex. Elles servent à dépenser moins d'énergie mentale pour réaliser des tâches. C'est-à-dire que quand vous allez conduire une voiture, par exemple, si vous avez l'habitude de conduire, eh bien, vous allez en fait conduire non pas tellement par votre conscience, mais beaucoup par vos habitudes, ce qui vous permet en fait d'un peu penser à autre chose et d'avoir l'esprit ailleurs quand vous conduisez. L'intérêt des habitudes, c'est aussi ça, c'est aussi de permettre d'utiliser moins d'énergie cérébrale pour faire d'autres choses et être concentré sur des choses peut-être plus importantes. En fait, ce que nous dit aussi l'auteur à travers une expérience, l'expérience d'une personne amnésique, c'est que les habitudes constituent en fait une sorte de mémoire inconsciente. C'est quelque chose de très profond en nous qui reste même dans les cas où on perd notre mémoire, notre capacité à mémoriser de nouvelles choses. À tel point que l'habitude, en fait, c'est une sorte de mémoire qui peut nous gêner parfois parce qu'on ne comprend même pas, on n'est même pas conscient qu'on se rappelle des choses dont on se rappelle. C'est le cas donc de Eugène, un amnésique qui a fait l'objet d'une étude, de pas mal d'observations. Donc Eugène était quelqu'un qui était incapable de se rappeler de nouvelles choses et qui avait oublié la plupart des choses de sa vie des dernières années. Enfin, en fait, toutes les choses de ces dernières années. Et il était chez lui avec sa femme et un moment sa femme a remarqué que Eugène souvent se baladait dans le quartier et revenait chez lui après, au bout de quelques minutes ou quelques heures. Et c'était quelque chose d'assez absurde, d'incompréhensible pour elle, puisque Eugène, normalement, est incapable de se rappeler du chemin. Et pourtant, il y arrivait. Et il se perdait pas. Et puis, il se baladait dans son quartier, il ramenait des choses différentes à chaque fois. Ça inquiétait énormément sa femme, puisqu'elle était convaincue qu'il allait se perdre tôt ou tard, puisqu'il n'avait pas de mémoire, et puisqu'il était incapable de décrire son quartier, de faire un plan de son quartier. Mais quand même, Eugène sortait tous les jours se balader, et puis il revenait bien à la maison, en bonne santé, et sans s'être perdu. En fait, la raison de ça, c'est que Eugène se rappelait très bien de son quartier, et en fait, il s'en rappelait sous la forme d'habitude. Il avait une mémoire profonde de ce qu'il faisait avant, de ce qu'il faisait quand il se baladait. Et en fait, bah, quand il se baladait dans son quartier, il allait voir une route, il allait voir un mur, il allait peut-être voir une personne, et ça allait, en déclenchant de nouvelles habitudes, par le cycle de déclencheur de routine et de récompense, eh bien, ça allait l'amener à se balader et à réussir à revenir chez lui sans se perdre. Et donc des scientifiques se sont intéressés au cas de Jeanne, parce qu'ils trouvaient ça assez étrange et qu'à l'époque on ne comprenait pas vraiment ce que c'était que les habitudes. Donc ça leur paraissait absurde qu'on puisse ne pas avoir de mémoire et se rappeler des choses néanmoins. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a proposé à Jeanne différents tests pour sa mémoire. Et ce qu'on a vu, c'est que... Et donc les scientifiques se sont intéressés à Eugène pour savoir un peu comment ça se faisait qu'il avait cette capacité à se rappeler de son quartier sans avoir conscience qu'il s'en rappelait. Et ils ont soumis Eugène à plusieurs tests de mémorisation, et ils ont soumis Eugène au même test exactement de mémorisation tous les jours pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Donc Eugène, pendant toute cette période, il avait aucune mémoire des tests. À chaque fois, il redécouvrait les personnes, et il redécouvrait les questions, il comprenait pas trop ce qui se passait. Et puis les chercheurs tous les jours lui posaient des questions, les mêmes questions sur ce qu'il pensait, sur voilà, des cartes qu'il devait identifier, sur des images qu'il devait identifier sur des cartes. Et en fait Eugène, la plupart du temps au début se trompait, puis les semaines et les mois passent, et puis petit à petit Eugène finissait par réussir à donner les bonnes réponses. Et c'était particulièrement choquant pour Eugène, puisque lui, il avait l'impression de pas savoir du tout les bonnes réponses. Il répondait au hasard, il répondait selon son intuition. Il ne savait pas s'il fallait choisir telle ou telle carte, il savait pas si. Enfin, il n'avait pas de mémoire, donc il était convaincu d'être incapable de réussir à ce test de mémorisation. Pourtant, quand le temps passait, Eugène répondait de mieux en mieux, et il comprenait pas pourquoi, parce que il répondait quasiment au hasard selon lui. Ça, c'était quelque chose de choquant pour lui, mais c'est aussi quelque chose qu'on vit tous un petit peu, d'avoir des réponses à notre intuition, et d'avoir juste. Bah souvent, en fait, c'est parce que on a eu une mémoire, une sorte de mémoire inconsciente qui a été imprimée par nos habitudes, par des actions répétitives, par des cycles déclencheurs routine récompense, qui vont faire qu'on a un savoir inconscient, une intuition qui nous permet de faire les bonnes choses. Et en fait, les habitudes, c'est ça. C'est quelque chose de très profond en nous, qui est ce qui reste même dans les cas où on perd, même si on devient amnésique, c'est quelque chose de très profond en nous qui s'inscrit et qui souvent nous permet de survivre et qui nous permet de gérer des situations qui se sont beaucoup répétées. En fait, ce que nous disent les scientifiques en étudiant le sujet de la mémoire, c'est que plus on va travailler une habitude, plus on va faire une action de manière répétitive sur le long terme, et plus en fait les réflexes, les réactions cérébrales vont se passer à un niveau profond. Elles vont se passer au niveau des noyaux de base, pardon, du cerveau. C'est-à-dire que c'est des choses qui vont être difficiles ensuite à éliminer et à remplacer. Et ce qui nous amène en fait à la règle d'or de la routine, la règle d'or des habitudes. La règle d'or des habitudes, selon Charles Duhigg, c'est la suivante, c'est qu'on n'efface pas une mauvaise habitude. On ne peut pas effacer les habitudes. Tout ce qu'on peut faire, c'est les remplacer. Et en fait, le truc, la technique que nous conseille l'auteur, c'est de bien se placer au niveau de ce cycle déclencheur, routine, habitude, et en fait, de faire en sorte de garder toujours un déclencheur, de garder la récompense, mais de changer la routine. C'est quelque chose qu'on peut faire, par exemple, dans le cas de la cigarette. Souvent, les gens vont fumer pour X raisons. Dans un premier temps, si on veut arrêter de fumer, on va essayer de trouver quel est notre déclencheur au fait de consommer de la cigarette. Et c'est très important de s'étudier soi-même sur ça, d'être un scientifique de ses propres habitudes. Par exemple, pour certaines personnes, fumer, ça va être un acte social, ça va être un moyen de sortir dehors et de discuter avec des gens. Et le déclencheur du coup de la cigarette, c'est un état émotionnel, un besoin de prendre une pause. La récompense, ça pourrait être d'être déstressé. Bon, du coup, la solution pour quelqu'un qui voudrait arrêter de fumer, eh bien, c'est de garder le déclencheur, être un petit peu dans un état où on a besoin de prendre une pause, où on a besoin de parler avec des gens, bien avoir conscience de cet état émotionnel quand il arrive dans la journée, et à chaque fois que ce déclencheur arrive, à chaque fois que cet état émotionnel arrive, faire une routine particulière, et trouver une routine qui donne la même récompense exactement. Alors, ça pourrait être simplement de méditer, ça pourrait être d'appeler un ami ou alors de parler avec des amis, ça pourrait être de se balader, trouver un truc qui va donner cette même sensation de relaxation, si c'est ça la récompense que vous avez quand vous fumez de la cigarette. Ça, c'est un petit peu le schéma général si on veut changer une habitude, parce qu'en fait, on ne peut pas effacer vraiment une habitude, parce qu'elle reste très imprégnée profondément en nous, dans les noyaux de base, et c'est pas quelque chose qu'on va effacer facilement. Par contre, on peut se servir de cette ineffaçabilité, de cette solidité-là, pour bah, garder une habitude sur le long terme, et utiliser les déclencheurs qui sont déjà présents en nous, et utiliser les récompenses qui marchent déjà avec nous. Donc voilà l'idée générale en fait pour améliorer ses habitudes. Ce que dit ensuite l'auteur dans une autre partie du livre, c'est que ce qui marche pas en particulier, enfin le problème, les grands problèmes avec les habitudes, c'est les situations de crise qui vont faire qu'on va totalement en sortir du jour au lendemain et qu'on va revenir à une habitude plus ancienne, qu'on a maintenue pendant plus longtemps. Et c'est un risque qu'il faut évidemment éviter. Donc il nous explique en fait que la clé pour arriver à ça, c'est d'avoir autre chose, enfin de pas se contenter de changer le cycle déclencheur, routine, récompense, mais d'avoir autre chose, d'avoir une motivation supérieure, de sentir que cette habitude qu'on essaye de créer, elle est plus importante que nous individuellement. Bon, ça, il prend l'exemple de l'association des alcooliques anonymes, qui est en fait le groupe de changement d'habitude le plus important, le plus impressionnant du monde, et dont le slogan d'ailleurs est aujourd'hui je ne boirai aucune goutte d'alcool. Eh bien, ce groupe de création d'habitudes très efficace, il se repose beaucoup sur la croyance en Dieu. C'est un groupe en fait assez religieux. Et sans cette croyance supérieure, eh bien c'est effectivement très difficile d'arrêter une addiction comme l'alcool. Parce que il faut avoir le sentiment de ne pas le faire seulement pour soi-même, mais pour quelque chose de supérieur. Et puis aussi évidemment pour le groupe des alcooliques anonymes, qui est une pression supplémentaire. L'auteur parle aussi d'autres cas de figure où vraiment c'est un événement dans un groupe de personnes, dans un groupe de football américain par exemple, où ça va être la mort du fils de l'entraîneur qui va souder une équipe et pousser les gens à vraiment respecter des habitudes qu'ils essayent de créer ensemble. Vraiment, dans beaucoup de cas, pour les habitudes plus dures surtout, ne pas avoir de motivation supérieure, eh bien c'est une recette pour l'échec. Il faut surtout avoir une motivation bien supérieure à notre petite individualité et avoir un idéal qu'on défend à travers notre création d'habitudes. Ça, c'est les clés les plus importantes. Après avoir parlé de ces moyens de créer des habitudes individuellement, on parle dans le livre, dans la deuxième partie, des habitudes à une échelle sociale, à une échelle politique, des habitudes des sociétés. En fait, ce que nous dit Charles Duhigg, c'est que la société est fondée principalement sur des habitudes, et que par exemple, en particulier dans une entreprise, le fonctionnement des entreprises est finalement assez peu rationnel, assez peu conscient, et qui repose beaucoup sur des habitudes qu'on va imiter et qu'on va maintenir sur le long terme. On va réagir à plein de situations complexes simplement de la même manière qu'on réagissait avant. Pourquoi? Bah parce que si l'entreprise est assez grande et assez ancienne, eh bien c'est que ça fonctionne. Et donc on va essayer de pas trop changer les choses et se concentrer sur ses habitudes. Alors ça c'est très problématique quand une entreprise veut passer au stade supérieur, et c'est très difficile dans une grosse boîte de changer justement ses petites habitudes. C'est ce qu'a essayé de faire un PDG dans une boîte dont il est question dans mon livre, qui est une boîte de construction. Et en fait, donc ce PDG, quand il est arrivé dans cette entreprise, il a pris la décision suivante, c'est de changer les habitudes de l'entreprise, mais en se concentrant sur une seule habitude, sur une seule question, qui est la sécurité des employés. Alors, quand il est arrivé et qu'il a proposé ça aux gens de sa boîte, ça s'est plutôt mal passé avec les investisseurs, avec les actionnaires. Ils étaient tous contre lui. Pourquoi? Parce qu'il ne promettait pas du tout de gagner plus d'argent, il promettait simplement plus de sécurité pour les employés. Et donc beaucoup d'actionnaires l'ont critiqué, comme sur le fait que c'était une décision irrationnelle économiquement, et que ces actionnaires ne voulaient pas plus de sécurité pour les employés, mais juste plus d'argent pour eux. Mais il a tenu le cap, parce qu'il savait que c'était le mieux, pas seulement pour la sécurité des employés, mais aussi pour la santé économique de l'entreprise. Et donc il a tenu le cap, il a quand même décidé de faire en sorte que ses employés créent des petites habitudes positives de sécurité dans toute son entreprise. Ça a demandé de revoir un petit peu les relations hiérarchiques, de remettre un peu en cause certaines autorités, et ça a demandé aussi de passer du temps, de faire des efforts, de réorganiser les chaînes de production pour qu'il n'y ait aucun accident dans ses entreprises à lui. Et la raison pour laquelle il a fait ça, c'est que grâce à ce changement, ce petit changement positif qui motive évidemment les employés et tous les gens sur la chaîne de production, eh bien, en changeant ça, il a pu changer toutes les habitudes de l'entreprise et il a pu révolutionner le fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire que avec ces changements d'habitude liés à la sécurité, où il a simplement demandé aux employés d'exprimer à leur supérieur quand il y avait un problème, d'essayer de soumettre des idées, d'essayer de corriger les problèmes en moins de 24 heures, eh bien en changeant tout ça, il a eu des petites victoires parmi ses employés, des petites victoires pour son entreprise, dans le sens où sa société est vraiment devenue la société de construction qui avait le moins d'accidents, qui donnait le moins d'accidents, qui était la plus safe, la moins dangereuse pour les employés. Et à partir de là, en fait, toute la santé économique et toute l'organisation de la société a été changée, et ça a été aussi la meilleure chose pour le profit et pour les actionnaires de l'entreprise. Simplement parce qu'il avait décidé de changer les habitudes petit à petit de cette boîte. En fait, ça, c'est l'idée que défend Charles Duhigg à travers les entreprises, c'est que de la même manière que quand on a un individu, il faut commencer par changer des petites habitudes, voilà, commencer par juste arrêter de fumer, ou alors juste faire un peu de sport tous les jours, ou alors juste boire de l'eau et plus de soda et de jus de fruits. Et voilà, se concentrer sur un seul de ces trucs, pas tout à la fois, pas deux, pas trois, mais un seul, avoir une petite habitude qu'on va améliorer, aller de petite victoire en petite victoire, et ensuite on va pouvoir tout changer progressivement. Ça c'est vrai individuellement, mais c'est aussi totalement vrai à une échelle d'une société, à une échelle d'une entreprise, et puis même à une échelle politique. Ensuite il en parle aussi dans le livre sur l'exemple du métro londonien, où à une époque où les rôles entre les individus dans les différents services du métro étaient cloisonnés, séparés, il y avait peu de communication d'un service à l'autre, car les employés avaient l'habitude de pas trop remettre en cause la hiérarchie et de pas sortir de leur rôle assigné, jusqu'à ce qu'un jour un incendie meurtrier, qui aurait pu être évité par les employés qui avaient vu un mouchoir brûler, se déclenche, et cet incendie a causé beaucoup de morts, et du coup tout a changé dans le métro londonien. Ça a été une énorme crise pour eux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite cette crise a été utilisée pour changer les habitudes de cette société de manière profonde. Une des leçons du livre, c'est qu'un bon entrepreneur, un bon patron, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser les crises, les périodes de crise, pour changer les habitudes d'une société, parce que c'est très dur de changer les habitudes d'une société. La première chose, c'est d'essayer de changer une seule chose à la fois. La deuxième, c'est que quand il y a une crise, eh bien, il faut en profiter à fond pour tout revoir et changer les habitudes, parce que ensuite, ça va rester pendant longtemps. L'auteur parle ensuite aussi de Starbucks et du fait que pour améliorer le service client de Starbucks, donc Starbucks c'est des cafés très chers où les gens viennent pour l'atmosphère et puis aussi pour être bien servis. Et ce qui fait aussi le succès de Starbucks, c'est la relation qu'il y a entre les barmaids, les serveurs et les clients. Et donc une des choses qu'a dû apprendre à faire Starbucks pour améliorer le service aux clients, c'est d'apprendre aux employés de gérer les situations de crise. Parce que c'est ça le plus important, et c'est ça qui démotive les serveurs, c'est d'avoir des situations de crise, des gens qui s'énervent, des clients avec qui il y a des confrontations. Et donc les employés, le focus de Starbucks pour faire marcher son entreprise et pour avoir un service client exceptionnel, c'était d'apprendre, d'enseigner aux employés de gérer ces situations de crise. Et ce qu'ils ont vu à Starbucks, c'est que la meilleure manière de faire ça, c'est pas simplement de l'expliquer, mais c'est de leur apprendre aux employés à gérer les situations par habitude, de les mettre de manière répétitive dans cette situation, dans une sorte d'entraînement, et leur permettre, eh bien, de, une fois que la situation réelle se présente, quand ils sont face à un client très énervé, un peu chiant, qui est dans la confrontation, eh bien leur permettre de gérer la situation en mode automatique, en mode habituel, simplement parce qu'ils l'ont déjà vu et qu'ils l'ont déjà répété dans un autre cadre. Alors ça a effectivement marché. L'autre truc qu'a trouvé Starbucks pour cette création d'habitude et que leurs employés sont motivés à les maintenir, c'est que ils poussaient les employés à trouver leur propre méthode, leur propre réaction face aux situations de crise et créer leurs propres habitudes et les implémenter grâce aux exercices et ensuite les faire dans la vraie vie. C'est un élément aussi important des habitudes, c'est que parfois, il faut pas juste suivre ce qui a déjà marché pour d'autres. Parfois, le simple fait de créer par soi-même, d'être l'auteur, d'être le créateur de son habitude, de sa méthode, eh bien, ça nous motive énormément à la respecter et ça facilite les choses. Ensuite, dans l'autre partie du livre, l'auteur parle, enfin toujours dans la deuxième partie, il parle de comment les habitudes sont utilisées contre nous en tant que clients. Et quelles sont les habitudes dont on doit avoir conscience qui nous font consommer parfois de manière irrationnelle et de la mauvaise manière. Il prend un exemple, l'exemple suivant, c'est celui tout d'abord dans les magasins, dans les supermarchés, pardon. Quand on rentre souvent, au début, il y a les fruits et les légumes. Alors c'est un truc qui en fait, quand on y réfléchit, est un peu absurde, puisqu'en général, on veut les prendre à la fin, quand on passe à la caisse, les fruits et les légumes, parce que s'ils sont en dessous, on va les écraser. Ils sont moins solides que les autres aliments. La raison pour laquelle les gens qui font le marketing dans les supermarchés placent les fruits et les légumes en premier, c'est parce qu'on commence souvent par, si on commence, pardon, si on commence par acheter des choses bonnes pour la santé, eh bien ensuite on aura plus de chances d'acheter des choses industrielles qui vont être plus chères et mauvaises pour la santé. Ça, c'est des choses que les gens dans les supermarchés ont obtenues par l'observation, en observant les données, et ils utilisent ça contre nous. De la même manière, quand on va dans certains rayons, enfin dans les supermarchés, les choses ne sont pas forcément très bien organisées. Il n'y a pas de rangement, par exemple, par ordre alphabétique des marques pour qu'on puisse trouver ce qu'on veut exactement rapidement. On va être poussé à regarder un petit peu tout parce qu'on sait que ça va nous amener à consommer plus. Et en fait, nos habitudes d'achat, ce que nous explique l'auteur, c'est un truc qui est extrêmement important pour les entreprises aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'elles ont tendance à se concentrer sur les événements importants de notre vie. Comme on l'a vu, les situations de crise et les situations de changement important sont un peu les seuls moments où on change vraiment nos habitudes. Ça va être un divorce, ça va être un mariage, ça va être une naissance, ça va être ce genre de choses. Et pour cette raison, c'est pour cette raison en fait que les entreprises se concentrent là-dessus. Par exemple, la naissance d'un nouvel enfant, ça va nous pousser à consommer complètement différemment. Et en fait, ça, c'est le moment clé pour un supermarché, parce que c'est le moment clé où on va changer de supermarché totalement et on va revoir nos habitudes de A à Z. Et c'est sur ça qu'on va se concentrer, c'est sur ça qu'on se concentre personnellement quand on veut changer d'habitude, profiter soit des crises, soit des événements de la vie importants. Mais c'est aussi sur ça que se concentrent les entreprises quand elles veulent nous faire consommer différemment. Donc, faut en avoir conscience. Et peut-être se méfier de ça si on ne veut pas le subir sans réfléchir. Ensuite, l'auteur parle de l'influence des habitudes dans un domaine particulier qui est le domaine de la musique. Et on peut voir comment ça peut être intéressant pour tous les gens qui vont faire de l'art de comprendre ça. Alors, ce qui a été fait à une époque, c'est qu'on étudie un peu les habitudes d'écoute des gens qui écoutent la radio aux États-Unis. Et il y a un morceau qui est sorti, vous connaissez sûrement, c'est le morceau Eia de Outkast. Et ce livre, en fait, pardon, cette musique, elle a été écoutée par des spécialistes de la musique et ils étaient tous convaincus que ça allait être un tube. Les algorithmes utilisés pour prédire le succès d'une musique prédisaient aussi totalement que ce serait un tube, que les gens allaient adorer cette musique, et toutes les radios voulaient le passer. Et donc toutes les radios ont commencé à le passer, avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'enthousiasme pour cette musique un petit peu nouvelle, un petit peu différente, qui sonnait pas vraiment comme tous les grands tubes. Eh bien, ils l'ont passé, et effectivement, bah, pas mal de gens adoraient cette musique, étaient complètement fans, et elle le rendait fou, voilà, pas mal de gens. Le problème, c'est que cette musique, comme elle était un petit peu différente, comme elle était un petit peu dans un style nouveau et inclassable, eh bien, même s'il y a des gens qui l'adoraient et qui l'écoutaient à fond, eh bien, il y avait aussi beaucoup de gens, un gros pourcentage d'auditeurs, jusqu'à 20, 30, 40%, qui, quand ils l'entendaient, changeaient de radio. ils allaient mettre une autre radio, et ça, pour une équipe de radio, c'est dramatique. Il faut surtout pas que ça arrive. Il faut surtout pas, pour une radio, passer des musiques qui soient trop clivantes, que certains vont adorer et que d'autres vont détester, parce que bah, ça fait perdre des gens, et à la fin de la journée, bah, plus personne n'écoute la radio en question. Alors, les responsables des radios trouvaient ça très problématique, parce qu'ils avaient dans les mains quelque chose à la fois qui pouvait donner beaucoup de succès et être très populaire, et qui était sur lequel ils avaient énormément misé, et puis en même temps quelque chose qui clairement était trop clivant et qui faisait que les gens changeaient de chaîne dans des trop grandes proportions. Alors quelle a été la solution pour ça? Et quelle a été la logique des habitudes qui a été utilisée pour améliorer cette situation? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé cette chanson Eya de Outkast. On a commencé à la placer non plus comme ça au milieu d'autres chansons un peu moins populaires ou d'autres chansons basiques. On l'a placée au milieu d'autres hits qui, eux, étaient beaucoup plus consensuels, beaucoup plus communs, des chansons à l'époque donc de Beyoncé ou Justin Timberlake, des choses qui faisaient en fait l'unanimité. Et en plaçant Outkast et le morceau Eya, un peu original, mais potentiellement très populaire, entre deux chansons, le sandwichant entre deux chansons plus habituelles, auquel l'oreille est habituée, eh bien tout d'un coup, Eya s'est transformée comme une chanson habituelle, et dans l'oreille des auditeurs, c'était une chanson normale, pas trop choquante, et beaucoup plus agréable à écouter, beaucoup moins clivante pour une grande partie de la population. Ça, c'est un concept important à comprendre en matière d'habitude, c'est que on a tous envie, même si on pense le contraire, on a tous un peu envie d'écouter des choses, de vivre des choses, de lire des choses qui font écho en nous, qui sont liés à une habitude. Et si on veut introduire quelque chose d'un petit peu nouveau dans notre vie, ou si on crée une boîte et qu'on veut introduire quelque chose de nouveau et d'habituel dans la vie des gens, eh bien il faut être capable de le placer au milieu d'autres choses qui sont beaucoup plus normales, beaucoup plus habituelles, et pas le mettre comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et être capable de le sandwicher entre différentes habitudes, entre différents univers qui, eux, sont beaucoup plus familiers. Donc voilà pour la question des habitudes et des entreprises. La dernière partie du livre, extrêmement intéressante aussi, c'est la partie sur les habitudes et la question, enfin l'avant-dernière partie, pardon, c'est la question sur les habitudes et la politique, et donc la question des habitudes sociales et politiques. Alors pour ça, l'auteur commence par parler de l'histoire de Rosa Parks. Donc, que vous connaissez peut-être, hein, femme importante dans l'histoire des États-Unis. Donc, c'est une femme noire à l'époque de la ségrégation raciale qui refusa de laisser sa place aux blancs dans un bus. Et à partir de ce jour-là, eh bien, ça a fait un grand scandale dans la communauté afro-américaine. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un grand boycott qui a mené, ben, en fait, un changement total de la politique de ségrégation aux États-Unis. Puis c'était le début du mouvement des droits civiques mené par Martin Luther King, qui, ben, quelques années plus tard, a mené à l'égalité en droit de tous les citoyens américains. Ça, c'est quelque chose, voilà, dont parle l'auteur. Mais en fait, ce que remarque l'auteur, c'est que Rosa Parks, qui est une héroïne aujourd'hui, ben, en fait, c'était pas la première personne à avoir refusé sa place à un blanc dans un bus. C'était pas la première femme noire à faire ça. En fait, c'était déjà arrivé. C'était même quelque chose pour laquelle des gens avaient déjà été arrêtés et condamnés pour exactement les mêmes actes que Rosa Parks. Pourtant, ils n'ont pas commencé un mouvement. Ça n'a pas produit quelque chose d'aussi marquant dans l'histoire des États-Unis. Ça n'a pas produit une telle vague d'indignation. Alors, quelle est la différence? C'est pas que Rosa Parks a appelé particulièrement au boycott, hein. Ça c'est plus des gens autour qui l'ont fait, Martin Luther King, etc. La différence c'est que Rosa Parks, en fait, c'était pas un individu comme les autres. Elle était dans la vie habituelle de tout le monde, en particulier de la communauté afro-américaine de sa ville, mais pas seulement. Elle était dans la vie habituelle de tout le monde parce qu'elle était très active socialement, dans toutes les communautés de sa ville. Elle était présente dans les églises, dans les associations, elle venait en aide aux gens, elle était parmi les noirs, elle était parmi les blancs, et tout le monde en fait la connaissait, et tout le monde l'appréciait, ou alors connaissait quelqu'un qui l'appréciait. En fait, elle avait simplement beaucoup d'amis, et puis aussi beaucoup de connaissances. Ce qui fait que quand elle a été arrêtée, quand il a été su qu'elle avait été arrêtée et pas respectée par les policiers, eh bien la pression sociale de tous ses amis, de tout son cercle social très grand, eh bien la pression sociale était tellement forte que le boycott était beaucoup plus facile pour les Noirs afro-américains. Et en fait, tout ça, Tout ce grand mouvement est parti de l'habitude de l'amitié qu'avait su créer Rosa Parks dans ses communautés, dans son environnement. L'auteur en fait nous parle aussi ensuite d'un concept dont il est question aussi dans d'autres livres, qui est le concept des liens faibles. Alors les liens faibles en sociologie, c'est les liens qu'on a avec les gens qui ne sont pas nos amis qu'on voit toutes les semaines ou même tous les mois, mais c'est les gens qu'on a déjà vus quelque part, avec qui on a peut-être déjà échangé quelques mots, et avec lesquels on a un lien finalement assez éloigné. Et voilà, c'est pas nos liens forts, c'est pas les gens qu'on va voir régulièrement. Alors sur les liens faibles, en fait, ce qu'on sait, ce qu'on a appris récemment à travers la sociologie, c'est qu'en fait, c'est les liens les plus importants dans nos vies, c'est souvent eux qui changent le plus de choses. Par exemple, dans le domaine de l'emploi, on sait que c'est pas nos liens forts qui nous permettent de trouver des emplois plus facilement, c'est plutôt nos liens faibles. Pourquoi? Parce que nos liens forts, il y a une certaine redondance, ils ont accès aux mêmes offres d'emploi que nous, et ils voient les mêmes choses que nous, ils vont sur les mêmes sites que nous, ils lisent les mêmes livres que nous, ils n'ont pas tellement de choses à nous apporter. Les liens faibles, c'est différent, ils ont beaucoup de choses à nous apporter, et donc ils nous permettent, ils vont plus facilement nous amener à trouver des offres d'emploi dans des domaines nouveaux, dans des entreprises qu'on ne connaît pas et qu'on ne surveille pas. Ça, c'est pas dans le sujet des habitudes, c'est dans un autre bouquin de Malcolm Gladwell. Là, il est question dans les liens faibles, bien du fait que ces liens faibles, en fait, peuvent nous mettre une certaine pression sociale, et que pour les mouvements politiques importants comme celui-ci, bien, c'est ces liens faibles qui font la différence. Si Rosa Parks, par son action très simple, qui avait déjà été faite auparavant, qui est de refuser de laisser sa place à des blancs dans le bus simplement parce que c'est la loi, bien par son action, parce qu'elle avait des liens faibles très étendus dans sa ville, eh bien, ça a produit quelque chose d'assez révolutionnaire. Voilà pour la question des habitudes et de leurs conséquences dans le monde réel. Comment changer ses habitudes soi-même, comment utiliser les habitudes dans une entreprise, dans une boîte qu'on veut créer, comment se méfier des habitudes qu'on essaye de créer en nous, et comment les utiliser aussi pour créer un mouvement politique. Voilà tout ce que les habitudes peuvent nous apporter. La toute dernière partie du livre est plus une réflexion, une question un peu philosophique sur la morale et la responsabilité que l'on a vis-à-vis de nos habitudes. Pour comprendre ça, l'auteur nous parle de deux cas de figure, deux grands cas de figure. Le premier cas de figure, c'est des gens qui sont somnambules. Et en fait, le somnambulisme, tout d'abord, il faut expliquer ce que c'est quand on se lève la nuit, souvent on peut fermer les yeux, qu'on n'est pas conscient et qu'on va faire des actions sans réfléchir. Bon, ces actions qu'on fait sans réfléchir, en fait, on les fait souvent simplement par habitude, c'est les choses qu'on fait habituellement, et on les fait sans avoir vraiment de responsabilité. Parce qu'on n'est même pas conscient de ce qu'on fait, c'est juste notre corps qui agit, qui répète ce qu'on a déjà fait dans la journée, ce qui est inscrit dans nos noyaux de base, au cœur de notre cerveau. Mais en fait, il y a plusieurs cas de figure qui ont été jugés en justice de personnes qui ont, par exemple, assassiné leur compagne ou leur compagnon au milieu de la nuit en étant somnambule. Ça va être quelqu'un qui, par exemple, un jour, pendant la journée, est dans une situation de peur où quelqu'un va l'agresser. Et il va être dans une situation de peur, il va vouloir réagir et se défendre. Et puis la nuit même, il va dormir avec sa femme. Et puis au milieu de la nuit, il va avoir l'impression qu'il y a du bruit, il va avoir peur, il va se lever. Il ne sera pas vraiment conscient, mais il va assassiner la personne qui est à côté de lui, en la prenant pour un voleur, pour un agresseur, de la même manière qu'il a été agressé plus tôt dans la journée. Et en fait, 20 minutes plus tard, il va réaliser que la personne qu'il a tuée, c'était sa femme. Et il n'en avait juste pas conscience. Et ce qui s'est passé en fait dans ce cas, bah, c'est que le mari, le tueur, a appelé la police et a expliqué je comprends pas, je crois que je viens de tuer ma femme, je comprends pas pourquoi. Voilà, venez. Et en fait, cette personne a été jugée par la justice américaine. Et ce qui a été jugé, c'est qu'il n'était pas responsable et qu'il ne méritait pas d'aller en prison. Parce que il n'était pas conscient de la situation. Et qu'il s'en voulait énormément lui-même, qu'il s'est dénoncé immédiatement. Et qu'il avait agi de manière somnambule en étant dominé par ses habitudes dans un moment d'inconscience totale. Et en fait, il y a plein de cas de figure comme ça, de femmes qui ont tué leur mari, de maris qui ont tué leur femme, de gens qui ont tué des gens qui sont entrés chez eux. Et il y a plein de cas de figure comme ça où des gens ont commis des actes violents, un peu par réflexe, un peu sans conscience et par quelque chose de très primaire dans leur cerveau, de très primitif dans leur cerveau. Voilà ce dont il parle dans un premier temps l'auteur. Ensuite, il nous parle d'autre chose, il nous invite à la réflexion. Il parle d'un autre cas de figure, où des gens, par exemple, vont avoir une addiction au jeu. Ils vont être addicts au casino. Il parle d'une femme en particulier qui avait un besoin très fort de jouer, de parier de l'argent pour bien se sentir. Voilà, dès qu'elle avait une situation de stress, Elle avait ce déclencheur, donc le stress, qui l'amenait à aller dans la routine d'aller dans le casino pour jouer de l'argent. Ensuite, elle avait une récompense, c'était eh bien de se sentir gagnée ou alors de sentir qu'elle était sur le point de gagner. Et il parle donc d'une femme en particulier qui a fait perdre de l'argent aux gens qui lui ont prêté de l'argent, qui a mis sa famille dans une situation très difficile et qui a fait beaucoup de mal autour d'elle parce qu'elle avait cette habitude et cette addiction de jouer au casino. Parce qu'elle y allait tout le temps, parce que les casinos comprennent très bien comment fonctionnent les habitudes des gens, parce qu'ils savent créer des déclencheurs, parce qu'ils savent donner des récompenses pour maintenir une routine, parce qu'ils savent très bien utiliser ce cycle. Et donc cette femme, en fait, elle a un moment été condamnée par la justice à verser de l'argent, évidemment à rembourser tout l'argent qu'elle avait perdu et qu'elle devait rendre à ses prêteurs. Et elle a été aussi condamnée à verser encore plus d'argent de pénalité. En fait, la question que pose l'auteur, c'est de savoir si, de la même manière que le somnambule, on le considère, la société ne le considère pas comme vraiment responsable parce qu'il agit par habitude inconsciente, est-ce que vraiment cette femme, qui était totalement addict et qui avait vraiment en elle cette habitude de jouer au casino, et qui n'était pas capable de combattre cette habitude malgré plusieurs tentatives, malgré des périodes d'arrêt, est-ce que vraiment cette femme est si responsable que ça de ses mauvaises habitudes? C'est la question que pose l'auteur, et c'est voilà, la question que je vous invite aussi à vous poser, quand vous voyez des gens autour de vous qui sont dans des cycles négatifs d'habitude, comprendre qu'on a affaire à quelque chose qui est vraiment central en nous, qui est bien au-delà de la question de la conscience et de ce qu'on sait, qu'on ressent et qu'on pense. Mais il faut avoir conscience de ça, que les gens agissent beaucoup de manière inconsciente, de manière involontaire et de manière dont on ne peut pas réellement les tenir responsables dans beaucoup de cas. Voilà pour le résumé du livre de Power of Habit. Je conseille pas forcément de le lire en entier. Je pense avoir résumé quand même les idées principales. Là, c'est un podcast assez long. Je vous conseille, si vous comptez vraiment, si vous avez vraiment des problèmes avec la création d'habitudes, si vous n'avez pas encore réussi à créer une première bonne habitude dans votre vie, ça peut être intéressant de le lire. J'aurais plutôt tendance à conseiller un livre pratique, du genre le livre de Léo Babeuta, 6 weeks pour créer 6 semaines pour créer une bonne habitude. J'essaierai de mettre le lien, de retrouver le nom exact du livre dans la description, juste en dessous. Et voilà, maintenant c'est un livre quand même intéressant, plus pour le côté scientifique et sociologique, avec pas mal de petites leçons, de petits trucs, voilà, que je recommande aux gens qui veulent vraiment creuser ce sujet-là. Pour finir, quand même, je vais vous donner un petit truc à la fin du livre dont je vais pas trop parler, qui est vraiment un guide pratique pour créer une bonne habitude. Donc, ce qu'on a vu plutôt là dans le résumé, c'est que pour créer une bonne habitude, il faut un trigger, un déclencheur, pardon, une routine et une récompense. Et donc, pour vraiment trouver, pour changer une habitude, ce qu'il faut, c'est pas forcément en créer, pas forcément, enfin, surtout pas essayer d'effacer une habitude, mais de prendre une habitude existante, de garder le trigger, de retirer la routine et de garder la récompense. Eh bien, il faut bien identifier le déclencheur et la récompense. Et pour ça, eh bien, il faut se poser les bonnes questions. Et en fait, ça tombe bien parce qu'en général, c'est à peu près toujours les cinq mêmes questions qui se posent. La question, c'est où est-ce que je suis quand cette habitude commence à être déclenchée? Où est-ce que je suis? À quel endroit? Est-ce que je suis assis dans mon bureau, par exemple? Ensuite, la question, c'est quelle heure il est? Est-ce qu'il est 3 heures? Est-ce qu'on est lundi? Quel mois on est de l'année? La troisième question, c'est dans quel état émotionnel je suis? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je suis dans l'ennui? Est-ce que je suis dans le stress? La quatrième question, c'est qui est avec moi, qui est autour de moi? Et la dernière question, c'est qu'est-ce que je faisais juste avant? Alors, quand on pose ces cinq questions, où, quand, comment je me sens, qui est autour de moi, qu'est-ce que j'ai fait juste avant, quand on pose ces cinq questions, on trouve beaucoup plus facilement quel est le déclencheur de chacune de nos habitudes. Et ensuite, il faut se demander qu'est-ce qu'on tire de cette routine, qu'est-ce qu'on ressent juste après la routine pour comprendre quelle est notre récompense véritablement, et puis essayer de la retrouver avec une routine différente. Voilà, je vous conseille d'essayer ça, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous l'avez mis en pratique, si vous avez déjà réussi à créer de bonnes petites habitudes, de petites victoires avec des habitudes clés, des Keystone Habits, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Bonne journée.